Il y a une réforme profonde de la formation initiale pour les professions de santé. Quels sont les grands axes ?
Premier axe de cette réforme, et je crois que c'est vraiment un point important, c'est que proposer à des étudiants qui ont un autre profil que celui du bac S avec mention très bien, à ces étudiants de pouvoir accéder aux études médicales. Si vous n'aviez pas un bac S avec mention très bien, jusqu'à maintenant, c'était quasiment impossible, et c'est fort dommage. Et c'est même paradoxal. Au moment où, vous le savez, dans les CHU et dans le domaine de la recherche biomédicale, on dit qu'il faut des profils variés, des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des mathématiciens, des informaticiens. Donc c'est vraiment l'idée de dire on doit diversifier les profils de recrutement dans l'intérêt des étudiants, mais aussi dans l'intérêt de la société. Le deuxième point qui me paraît vraiment essentiel, c'est qu'on quitte une logique qui est purement une logique de sélection. La PACES, c'était un dispositif de sélection, ce n'était pas un dispositif d'apprentissage. On n'apprend rien en PACES. Si bien que, et c'est le troisième objectif, les étudiants qui rataient les concours, l'immense majorité évidemment, se retrouvaient sans rien, avec l'obligation de repartir sur des études dans d'autres domaines. Et l'idée est de dire, non seulement on va les sélectionner, mais surtout, pendant ces années, on va leur apprendre. Ce sont des années d'apprentissage, mais aussi des années de sélection.
Alors cette réforme, elle sort d'où ? Est-ce qu'elle est en continuité de la réforme du lycée ? Est-ce qu'elle a été décidée par Frédérique Vidal, la ministre ? Est-ce qu'elle a été pensée avec les professeurs, avec vous, les spécialistes de l'enseignement, et avec enfin les syndicats étudiants ? Je ne dis pas les étudiants, je dis les syndicats étudiants.
Oui. Moi, j'étais président d'université et ça fait 30 ans que j'entends parler de cette réforme. Et ça fait 30 ans que l'on cherche une solution, puisque les effets délétères du dispositif étaient très largement partagés. Beaucoup de sujets ont été mis sur la table. Vous savez qu'il fut un temps, il s'agissait de sélectionner les étudiants à l'entrée de la PACES, les sélectionner. Bon, ça n'a pas été fait. Et il y a eu effectivement un nombre de rapports conséquents, une concertation très large, pour essayer de converger vers un système qui soit dans l'intérêt des étudiants et de l'intérêt dans la société. Intérêt des étudiants, que les étudiants qui s'engagent dans ces études et qui échouent ne soient pas hachés menus, ne soient pas obligés de repartir à la case départ un, deux, quelquefois trois ans après avoir engagé cet investissement. Pour la société, parce qu'on voit bien que la diversification des profils de recrutement est une richesse incroyable. Donc oui, ça a été concerté avec la conférence des présidents d'université. Ça a été concerté avec la conférence des doyens de médecine. Ça a été concerté avec les associations d'étudiants en médecine. Ça a été concerté aussi entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère de la Santé, puisque les professions médicales ont également eu leur mot à dire. Cette réforme, je veux le dire, hein, elle est consensuelle. C'est une réforme qui a été voulue par toutes et tous et qui, aujourd'hui encore, quand on a la chance de pouvoir discuter des fondamentaux et pas seulement des difficultés de mise en œuvre. Bien sûr que les difficultés de mise en œuvre sont un élément important. Mais quand on reprend les fondamentaux, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut absolument que cette réforme s'installe dans de bonnes conditions.
Vous venez de me tendre la perche parce que les bonnes conditions, depuis un an, on est en crise sanitaire. Il y a des mesures de protocole très serrées, très profondes, donc encore renforcées dans la période actuelle. Comment est-ce que vous avez pu attirer des étudiants, mettre en place cette réforme en pleine crise sanitaire ?
Alors, vous avez totalement raison. Le grand problème du sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est que nous avons mis en place une réforme d'une ambition très forte, attendue depuis longtemps, et que le contexte sanitaire s'est dégradé. Dans un contexte sanitaire qui n'a pas permis d'aller aussi loin que nous aurions souhaité aller dans l'information, dans la communication, dans l'échange, parce que tous les sites internet, toutes les petites vidéos d'explication ne remplaceront jamais le contact en présentiel avec les étudiants concernés pour leur expliquer les prochaines étapes de mise en place de la réforme, puisque cette réforme est mise en place cette année pour la première fois, étape après étape. Donc le contexte sanitaire n'a pas facilité les choses, c'était pas facile à anticiper. Pour autant, ce que je peux dire, hein, malgré les difficultés, dont d'ailleurs la presse se fait écho régulièrement, et c'est bien normal, et c'est bien légitime, jusqu'à aujourd'hui, les différentes étapes de mise en place de la réforme se sont passées sans encombre.
Venons-en à cette mise en place, parce qu'on a tous en tête l'abandon du numerus clausus. Alors, vous parlez d'un numerus apertus. Quelle en est la mise en place ici dans le rectorat d'Aix-Marseille, enfin dans l'université de la région ?
Ça change tout, numerus clausus, numerus apertus. Ce n'est pas simplement une question de terminologie. Hein. Le numerus apertus, ça veut dire que les capacités offertes aux étudiants pour réaliser des études médicales, donc le nombre de places offertes, très concrètement, il va dépendre de toute une série de facteurs qui sont déterminés par les acteurs locaux. La capacité d'accueil de l'université, ses activités pédagogiques, le CHU qui doit accueillir des stagiaires, l'ARS qui a eu des projections sur l'évolution des professions médicales dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc c'est la prise en compte de tous ces critères qui conduit à déterminer au niveau des territoires une capacité d'accueil annuelle. Cette capacité d'accueil cette année, elle a augmenté par rapport à l'année précédente de l'ordre de 10% au total et de 20% pour les étudiants qui sont rentrés dans le système, justement les PASLAS. Ce que je peux dire, encore une fois, sans trop hypothéquer l'avenir, c'est que lorsqu'on regarde les fondamentaux, les données clés de ces différents critères de décision du numerus apertus, je ne vois pas que dans les années à venir, on puisse revenir sur ou diminuer ce numerus apertus. Je vois au contraire toute une série d'indicateurs qui vont pousser pour que ce numerus apertus soit revu constamment à la hausse.
Revenons, ce sera ma dernière question, aux étudiants. On sait bien qu'il y a les étudiants entrants et les étudiants doublants. Est-ce qu'il y a suffisamment de place justement pour tout le monde? Et on voit aussi des collectifs de parents d'élèves monter au créneau, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de place. Donc est-ce qu'il y a un équilibre pour l'accueil de tous les étudiants qui veulent choisir cette voie?
Alors il faut être très clair. On est donc, comme tout le monde l'aura bien compris, sur une transition entre deux systèmes et aujourd'hui deux systèmes qui existent au même moment. On a les doublants de l'ancien système, ce qu'on appelle les doublants de la PACES. Cela, il était très important, et la ministre nous a demandé de veiller à ce que ce soit le cas, il était très important que ces doublants de la PACES, les derniers doublants de la PACES de l'histoire, si je puis dire, ne soient pas défavorisés. Donc le nombre de places qui a été offerte à ces étudiants, c'est très précisément le nombre de places correspondant à la moyenne de la réussite de ces étudiants au cours des trois dernières années. Bon, je n'ai pas entendu de discussion sur ce chiffre dès lors qu'il a été publié au journal officiel. Deuxième chiffre important, c'est les entrants dans le système, ceux qui sont cette année inscrits en PASS et en LAS. Et pour ces étudiants aussi, la ministre nous a demandé à ce que le nombre de places ouverte ne soit pas défavorable par rapport à une situation si la réforme n'avait pas été mise en place. Donc nous avons regardé les taux de réussite, cette fois-ci, des primants au cours des trois années précédentes. Ça, c'était le minimum, le chiffre minimum, et ce chiffre a été augmenté de plus 20% ici, à Aix-Marseille Université. Donc on peut dire que les étudiants qui rentrent dans le système ne sont pas non plus défavorisés.